C'est, oui, allez-y. Parce que c'est un gros morceau, je peux répondre d'abord là-dessus.
On répond à celle-là.
Peut-être, oui, parce d'accord. que c'est une question tout à fait fondamentale que vous posez là. Information sur ce qui est en cours, il n'y a pas grand-chose en cours. Il y a dans les tiroirs des Nations Unies, depuis des années, l'idée d'une réforme qui consisterait, c'est le seul contenu de la réforme qui est avancé, à ajouter des membres permanents à ceux-là. L'idée étant, c'est vrai que leur légitimité de l'époque est un peu usée, et c'est vrai qu'on les appelle grandes puissances, mais qu'il y en a d'autres qui sont devenues au moins aussi grandes. Évidemment, ça n'aura pas lieu, pour une raison très simple. C'est que les grandes puissances en question, les cinq grands, ont verrouillé la charte, puisque aucune réforme de la charte n'est possible sans un vote du Conseil de sécurité avec la voix des cinq membres permanents. Donc ils ont, entre les mains, et par un accord entre eux, nécessaire, impératif, la clé de la réforme. C'est vous dire qu'elle n'est pas pour demain. Alors, il y a quand même des prises de parole à l'Assemblée générale, etc., beaucoup d'études qui sont faites. Moi, j'avais écrit, notamment dans le monde diplomatique, il y a déjà plusieurs années, des articles là-dessus, parce que je suis convaincue que ça n'est pas le nombre de membres permanents qui est en cause, c'est la présence de membres permanents, quels qu'ils soient. Mais j'ai mesuré la difficulté, je vous parlais d'un colloque qui a eu lieu à Aix-en-Provence il y a quelques mois. C'était un hommage qui était rendu à Yves Daudet, qui était professeur à Aix et qui est maintenant secrétaire général de l'Académie de droit international. Et c'était sur les Nations Unies. Et donc, il y avait un chapitre dans le plan du colloque qui s'appelait « Les Nations Unies et la démocratie ». Alors, quand on parle des Nations Unies et de la démocratie, on ne parle que d'une chose, c'est la manière dont les Nations Unies aident à faire advenir la démocratie dans des pays qui ne la connaissent pas. Et elle aide considérablement, notamment en fournissant des urnes, parce qu'elle ne connaît que la démocratie représentative et les élections. On envoie des observateurs des Nations Unies surveiller les élections dans des pays où il y a quelquefois 70% d'analphabètes, où le climat ne permet pas aux gens d'aller voter, où il faut transporter les urnes en passant des rivières à gué. Enfin, c'est complètement surréaliste. Mais l'ONU est très fière de ça. Et d'ailleurs, à New York, dans les bureaux de l'ONU, il y a une série de bureaux qui s'intitule « Ingénierie démocratique ». C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Sauf que moi, je suis allée à Aix en disant « ça ne m'intéresse pas du tout cette histoire-là, parce que je ne vois pas pourquoi une organisation qui repose sur des fondements non démocratiques se permet de promouvoir la démocratie ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie ? Je vais rester, avais-je dit, sur votre définition très basique et représentative. C'est le droit pour les membres d'une communauté de désigner ceux qui la dirigent de manière temporaire, pas définitive, en renouvelant régulièrement les personnes en question. Si les Nations Unies, c'est une communauté d'États, il est légitime que cette communauté d'États, régulièrement, élise ceux qui vont gérer la communauté pendant quelque temps, et ensuite les réélise périodiquement. La notion de membre permanent est incompatible avec l'idée même de la démocratie. C'est une notion aristocratique. C'est dans les monarchies qu'on est là pour toujours, soi et ses descendants. C'est une conception aristocratique. Oh, les collègues n'étaient pas d'accord du tout, c'était très bien comme ça, c'était quasiment naturel. Il ne fallait surtout pas toucher à ça. Donc, les Nations Unies ne seront pas réformées avant longtemps. Pourtant, je la vois assez bien, la réforme, parce qu'il y avait de bonnes choses dans les Nations Unies. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'idée d'un mécanisme de maintien de la paix avec un organe objectif, qui serait supposé objectif, qui départagerait les belligérants, qui les calmerait, qui éventuellement interviendrait, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais naturellement, ça va avec l'article 26, c'est-à-dire la réglementation des armements, ça va avec tous les autres articles de la charte qui parlent de la justice sociale, du développement, etc. Donc la réforme des Nations Unies, du point de vue institutionnel, c'est une réforme du Conseil de sécurité qui comprendrait les 15 membres actuels ou un peu plus s'il faut, mettons 20 ou 25, élus périodiquement parmi tous les États membres de l'Assemblée générale. Et puis il faudrait évidemment une autre réforme qui serait une deuxième assemblée, parce que l'Assemblée des États, c'est une chose, mais le monde d'aujourd'hui ne peut pas se réduire aux figures des États. Il faudrait une deuxième assemblée qui représenterait soit la société civile, mais c'est très difficile, soit, moi j'avais émis l'idée que provisoirement, on pourrait avoir une assemblée qui représenterait les parlementaires. Parce que les exécutifs des États et leurs parlementaires, ce n'est pas le même esprit. Les parlementaires, comme eux, ils sont soumis à réélection, donc ils reviennent vers leurs électeurs, ils ramènent davantage, ils ont une meilleure conscience de ce que dit le peuple. Les pouvoirs exécutifs sont très vite très loin de ça. Donc, bon, c'était une idée qui n'est pas parfaite, mais en tout cas, il faut une deuxième assemblée. On ne peut pas n'avoir qu'une assemblée représentant les exécutifs des États. Et puis, il y a un troisième élément d'une réforme qui est indispensable. Il faudrait que la justice internationale, celle de la Cour internationale de La Haye qui a été créée en 1945, comme celle de la Cour pénale internationale, soit une justice obligatoire. Actuellement, pour soumettre un litige à la Cour de La Haye, il faut que les deux États soient d'accord. Moi, je travaille pour le Vietnam depuis 20 ans. Ils ont des problèmes effroyables avec la Chine, et là, pour ceux qui s'intéressent aux guerres du futur, il y a un foyer de violence potentiel terrifiant. Parce que la Chine s'est équipée de sous-marins nucléaires, et les autres riverains de la mer de Chine du Sud sont en train de s'équiper aussi. Et ils se disputent quelques petites îles qui n'ont aucun intérêt, qui sont inhabitées, le climat est torride, c'est là que se forment les cyclones, c'est effroyable. Sauf que c'est d'une richesse folle, puisqu'il y a du gaz et du pétrole, paraît-il, en abondance dans le coin. Il y a des richesses, des ressources halieutiques. Et puis en plus, il y a que c'est une route, évidemment, stratégique. Hein, pour venir du Japon ou de la Corée, passer par le détroit de Malacca, on passe là. Donc les Chinois ont décidé que c'était à eux. Et les Vietnamiens, qui avaient des droits sur les îles à une époque plus ancienne, essayent de revendiquer, les autres aussi, mais c'est un foyer de tension considérable. Donc on a là un problème qui va un de ces jours dégénérer. Les Vietnamiens sont d'accord pour le soumettre à la Cour de La Haye. D'ailleurs, quand la France gérait l'Indochine de manière coloniale, elle était déjà en conflit, en différend avec la Chine sur ces îles, les îles Paracels notamment. Elle avait déjà dit à l'époque, en 1937, allons devant la Cour de La Haye, qui était à l'époque la Cour permanente de justice internationale. La Chine n'a jamais voulu. Et on ne peut pas l'obliger. Au nom de leur souveraineté, les États ne sont pas obligés de se soumettre à la justice internationale. Ça, c'est un point. On n'a pas, en droit international, le droit comme substitut à la violence. Il faut l'accord des intéressés. Donc, quand il y en a un qui se sent le plus fort, il ne donne jamais son accord. Il préfère les armes. Donc, la réforme des nations, une autre image de l'ONU, on voit à peu près comment on peut garder ce qui était bon dans le mécanisme et le corriger des effets pervers. Mais le problème est que, comme je vous l'ai dit à l'instant, il faut le vote des 5 grands pour toute réforme, donc il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Moi, j'espère et j'attends le jour où des petits États comprendront qu'ils n'ont pas intérêt à rester aux Nations Unies, la quitteront pour immédiatement créer autre chose qui deviendrait attractif à ce moment-là. Mais je ne vois pas venir ça pour l'instant. Il y a quelques petits États qui sont assez critiques des Nations Unies, mais ils n'en sont pas proposés un contre-projet. Régis Debray avait écrit un article un jour, je ne sais plus où, où il proposait qu'on crée une autre ONU qui siégerait à Jérusalem. C'était une belle idée, hein, comme symbole. Mais là aussi, c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Voilà.